J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mouchmaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous retrouver avec nous. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. En marge de cette fête, plusieurs associations féminines plaident pour l'augmentation du taux de la représentation des femmes dans les institutions nationales. D'après le dernier rapport de l'Observatoire de la parité en République démocratique du Congo, ce taux estimé à près de 10% reste jusque-là très faible. Parole aux auditeurs, en parle aujourd'hui avec comme question principale, que faire selon vous pour améliorer ce taux et quelle urgence accorder à la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution. Pour participer à cet échange, composez les 081 890 63 15 ou encore les 081 890 43 39. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocafé.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Mpoutou réalise cette émission mise en onde par Alain Goy et Hippolyte Kapanga. Et Gilles Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Gilles Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et surtout merci à vous qui avez déjà pris contact avec nous pour participer à ces débats autour de cette question sur la parité. Nous avons en ligne Maître Adine Onokoko qui est notre invitée. Elle est juriste et avec elle, on va aborder tous les aspects de la question. Maître Adine, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gier.
Voilà, Maître Adine, à quel niveau se situent actuellement les progrès de la parité en RDC au niveau du pouvoir social, du pouvoir économique et dans un premier temps du pouvoir politique?
D'abord, je commencerai par le pouvoir politique. Vous savez, pour rendre concrète la parité, même la Constitution, son article 14 exige à ce que qu'il y ait une loi qui soit votée pour mettre en place pour rendre effectivement cette parité. Et aujourd'hui, la loi qui a été soumise au Sénat pour lecture, qui a été présentée en termes de projet de loi par le gouvernement, a été votée au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, mais que les termes ne se sont pas accordés. Il y a une commission paritaire qui a siégé et a voté une loi qui attend à être promulgué au niveau du président de la République. Donc nous espérons à cette prochaine session parlementaire, la dernière lecture qui sera effectuée permettra à ce que l'on puisse finaliser ce projet de loi et que les présidents de la République puissent la promulguer afin que nous puissions effectivement avoir un document qui puisse échelonner ou rendre effectif la parité en termes de proportion et en termes de proportion et aussi et déterminé dans les temps.
Alors ça c'est au niveau du pouvoir politique. Ben, qu'en est-il du pouvoir social et du pouvoir économique?
Bon, du pouvoir social et du pouvoir économique, vous savez que numériquement la femme constitue la frange la plus élevée de la population, hein, et que au niveau économique, elle est plus dynamique, mais elle continue encore à fonctionner dans l'informel. Donc il est difficile aujourd'hui de mesurer le rendement de la femme qui travaille beaucoup dans ce secteur-là, qui travaille le rendement de la femme dans le secteur économique parce que ses efforts ne sont pas canalisés, ne sont pas capitalisés. D'où il y a une nécessité d'arriver à canaliser tout ce que font les femmes dans le secteur économique, à leur trouver des moyens, à leur renforcer les capacités, afin que nous puissions aujourd'hui avoir des indicateurs fiables au niveau de l'économie de notre pays. Au niveau social, bon, elles sont numériquement nombreuses, mais il y a une nécessité à ce que cette masse plus élevé que contient les femmes au niveau de la population puisse être formée, puisse être sensibilisées puissent être prises en charge dans le domaine médical, parce que vous savez, aujourd'hui encore, nous sommes parmi les pays du monde dans lesquels sont comptés un grand nombre de mortalités maternelles et infantiles. Donc, ce n'est pas de progrès. Il faudrait arriver à mener des actions pour quitter cet état de choses. Au niveau éducationnel, les femmes, aujourd'hui, avec la campagne qui a eu toutes les filles à l'école, nous sentons les tendances que bon nombre de parents qui sont capables de payer les études pour leurs petites et jeunes filles les font. Mais arrivées au sommet, les femmes n'arrivent pas dans le cursus scolaire normal au niveau primaire, maternel, primaire et secondaire et même universitaire. Il y a beaucoup de femmes, mais au finish, elles n'arrivent pas à égaler numériquement le taux des garçons qui vont à l'école et qui les terminent. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de problèmes qui font en sorte que le niveau de l'éducation de la jeune fille qui sera femme de demain puisse connaître encore d'obstacles. Donc il y a une nécessité vraiment de fournir des efforts pour que l'on puisse quitter cet état. Et les efforts ne pourront pas être fournis par les femmes elles-mêmes seulement. Il faudrait qu'il y ait un cadre, et le cadre qu'il y ait, c'est l'État qui doit prendre en compte tous les programmes et politiques en faveur de la femme en vue que puisse sortir de cette situation déplorable.
Oui, Maître Adine, l'article 14 de la Constitution, vous l'avez évoqué, stipule que la femme a droit à une représentation équitable. Que cela signifie ?
Une représentation équitable au niveau des institutions, cela signifie que à chaque fois qu'il y a mise en place des membres du gouvernement, il y a des nominations qui se font au niveau des entreprises publiques, des établissements publics de l'État. Lorsqu'il y a élection, les partis politiques doivent tenir compte à aligner un grand nombre de femmes dans les listes électorales. Les présidents de la République ou le Premier ministre ou la Première ministre, nous le souhaitons bien dans le futur, puissent tenir compte de la participation de femmes à un seuil numérique un peu plus considérable. Parce que vous avez rappelé les statistiques de l'étude qu'a fait tout à l'heure
l'Observatoire, l'organisation
Observatoire de la parité. Je signale que c'est une organisation partenaire à notre plateforme CAFCO. Et personnellement, je suis ici à Kinshasa chargée du lobbying au niveau du Parlement pour cette organisation. Et les statistiques que vous avez aussi ont été produites par nous. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait à chaque fois que les pouvoirs publics veillent à ce que lorsqu'il y a des postes à pourvoir dans tous les domaines de la vie, qu'on puisse tenir compte de la participation en nombre numérique de la femme au poste de prise de décision. Et c'est vrai, la loi sur la mise en œuvre de la parité, dans laquelle loi nous espérons qu'il pourra être votée...
Incessamment.
Tout à l'heure, dans les jours à venir, puisse échelonner d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment est-ce que les pouvoirs publics vont pouvoir aligner les femmes dans les institutions. Dans un seuil de moins de 30% pour que nous y arrivons progressivement. C'est vrai qu'il y a la Constitution qui consacre la parité, la loi est en train de rendre effectif, donc il y aura un échelonnement à suivre et un taux minimum à respecter au niveau des institutions.
Oui, ben c'est depuis 2008 que les femmes militent pour cette parité. Hein,
Je vous entends très mal, si vous pouvez parler un peu plus fort.
Voilà, j'ai dit, Maître Adine, d'une manière un peu solennelle, d'une manière un peu publique, les femmes militent pour cette parité depuis des années, si on nous prend pratiquement depuis 2008, lorsqu'on a lancé l'Observatoire de la parité, et en 2010, lorsqu'on a organisé cette marche mondiale qui a eu comme point de chute Bukavu, on se rend compte que les femmes sont de plus en plus très très motivées dans cette lutte de gagner la parité et même jusqu'à arriver à matérialiser les dispositions de la Constitution sur l'article 14. Mais on se rend compte qu'il y a encore des questions à poser au niveau de l'opinion. Quand est-ce que cela sera réellement effectif? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les choses traînent. Jusqu'à quand, donc?
Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai parlé des obstacles. Hein? L'opinion voilà. publique est composée de personnes de tout genre, des personnes de toute situation, des personnes de toute nature et qui n'ont pas toujours la même appréhension, la même compréhension de choses. Ça, c'est une, c'est un fait. Et c'est partout dans les mondes. Et les pesanteurs socioculturelles ont fait aussi, qui sont parmi les causes du moins, ont fait aussi que les gens n'acceptent pas facilement, dans notre société particulièrement, de voir les femmes occupées des postes de responsabilité. Hein? Ils voient plus dans les sens, dans les sens négatifs. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'estime que le travail que les femmes ont mené bien avant que nous puissions adhérer dans les mouvements associatifs et nous y sommes maintenant et que nous continuons à faire. Et moi, je capitaliserais tout. Hein. C'est vrai que dans toute marche, il y a des faiblesses et il y a aussi
tout à fait.
De force. Il faudrait absolument faire en sorte que tout ce qui a été fait puisse être capitalisé en faveur de la femme, se poser la question de savoir ce que nous voulons, comment le rendre agréable et recevable auprès de la grande masse de la population, quel message apporter pour arriver à niveler les niveaux de compréhension à un même seuil et continuer la sensibilisation. Donc, c'est un travail très positif. Moi, je capitalise en tout cas positivement parce que avant, il n'y avait pas de loi, mais aujourd'hui, nous sommes dans le processus d'avoir des textes légaux et réglementaires en faveur des femmes parce que la Constitution, déjà notre loi mère, consacre cela et que au fur et à mesure, vous savez, la société est changeante, la société elle est dynamique. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être les gens ne comprendront pas, mais au fur et à mesure qu'il y aura des sensibilisations, qu'il y aura des échanges de partage d'informations, les gens comprendront et trouveront le bien fondé de cette loi ou de l'effectivité de la parité dans notre société. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, et c'est plus lié au travail que font les acteurs sociaux dont nous faisons partie. Mais d'autre part, il faudrait aussi qu'il y ait impulsion de la part de pouvoirs publics. Parce que, c'est vrai, la loi est opposable à tout le monde, mais les personnes qui sont appelées à s'approprier et à mettre en place effectivement et à faire respecter la loi, c'est des gens qui sont dans les institutions. Et les pouvoirs publics doivent donner l'exemple en poussant, en prenant des dispositions ou des mesures qui devront rendre opposables, du moins, les dispositions de l'article 14 de la parité. Il faudrait vraiment un grand travail de volonté politique à faire pour que nous puissions parler de la parité. Et si cela est fait, je crois que ça pourra avoir comme effet collatéral par rapport à la population. C'est que quand on sait faire respecter la loi, les gens s'y conforment et arrivent à changer de comportement par rapport à cette loi-là. Donc, il faudrait
un travail de fond de ce côté-là. Merci, Maître Adine. Restez en ligne le temps pour nous d'accorder la parole aux auditeurs qui nous ont rejoints. 081 890 6315 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs pour participer. 081 890 6315 ou par Internet. pa@radiocapi.net.
Nous prenons le premier auditeur qui est en ligne, Mathieu, qui nous a appelé des Kananga. Bonjour Mathieu et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur.
Voilà,
prophète Mathieu à partir des Kananga.
Voilà, prophète Mathieu, que faire selon vous pour améliorer les taux qui est estimé en tout cas à 10% et qui semble être très faible hein, par rapport à la position de l'Observatoire de la parité, et quelle urgence accorder à la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution qui consacre donc cette parité?
Bon. Moi, d'abord, je suis un serviteur de Dieu. Je dois me limiter.
Oui, Mathieu. Oui, Mathieu. Oui, Mathieu. Oui, Mathieu. On doit éviter.
Oui,
prophète Mathieu, pasteur Mathieu. On doit éviter les considérations pastorales ou encore religieuses, hein, parce que là, oui. Nous prenons des considérations générales bon. Par rapport à l'article de la Constitution qui consacre cette parité. Voilà. Est-ce que vous pensez que on peut quand même accorder le bénéfice de l'urgence à cet article?
J'ai dit ceci. En ce qui me concerne, je ne peux pas changer la fonction d'une femme qui lui a été attribuée par Dieu depuis la créature. C'est-à-dire quoi? La fonction d'une femme est d'être maîtresse de la maison, c'est tout. Chercher à s'attache à la femme aujourd'hui.
Voilà, voilà, Mathieu.
C'est contraire à la parole de Dieu.
Pasteur Mathieu, je crois que vous avez compris les sujets. Nous faisons des considérations générales. On ne doit pas rester par rapport à... Si chacun verse dans les considérations religieuses, je crois, les catholiques, les protestants, les kimbanguites, les musulmans, hein, chacun a sa position par rapport à la femme. Mais là, ici, nous restons dans les considérations générales, la manière dont on voit, d'une manière universelle, qu'on voit la chose. Merci, prophète Mathieu, d'avoir appelé des Kananga. Gami, Giazami, vous appelez de Matadi, bonjour.
Galvani en Bujumai.
Voilà, vous êtes en Bujumai, Giazami.
Galvani.
Galvani, voilà. Vous avez la parole pour répondre à cette question. Que faire, selon vous, pour améliorer les taux qui est faible au niveau de la parité dans les institutions? Et quelle urgence accorder à la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution qui consacre cette parité?
D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je vais avoir aussi à l'invité tout le secteur des radios Capis. J'aimerais, avant de commencer, rendre hommage et souhaiter aussi une bonne fête à toutes les dames. Et concernant la question, moi je veux d'abord aborder cette situation sur trois plans. Sur le plan social, le plan politique et sur le plan économique, pourquoi pas judiciaire aussi, ou juridique. Sur le plan social, nous constatons que la femme, aujourd'hui, elle-même, elle vit comme si elle est complexée. Je prends peut-être l'exemple d'ici, en Bourgogne, précisément, parce qu'il y a en tête. Vous trouvez que la femme, d'abord, est indifférente à sa situation elle-même. Elle croit que non, rester à la cuisine, comme disait le prophète, rester à la cuisine, second plan, c'est ça même la vie. Et dès que nous étions un peu même descendus, certains jeunes filles, leur vision se limite au mariage. Or, le mariage, c'est bon, mais il n'y a pas seulement le mariage dans la vie d'une fille ou d'une femme. C'est-à-dire, la femme elle-même n'est pas conscient d'abord du rôle qu'elle doit jouer dans ce pays ou dans la vie de toute une nation. Alors, si elle-même n'est pas consciente de cette situation, comment elle peut influencer les autres ou les hommes? Parce que dans la vie pratique, on ne se fait pas des cadeaux. On peut donner la main à celui qui a un bras. Elle doit donner d'abord des efforts, et lorsque les hommes verront qu'elle fournit des efforts, là, tout le monde va la soutenir. Mais si elle se contente d'abord de cette situation, il n'y a pas moyen. Sur le plan politique, économique, vous savez que c'est la femme, aujourd'hui, quand même, qui fait bouger l'économie de l'RDC, malgré que c'est dans les femmes. Mais il y a toujours des situations où elle est vraiment... Elle se met toujours au second plan. C'est ça, le problème. Et nous trouvons une situation coupée en deux. Les femmes intellectuelles et les femmes réelles, qui ne savent rien même de leurs droits et de cette journée aussi. Vous trouvez des femmes qui disent que aujourd'hui c'est les hommes qui doivent se parer. Or, ce n'est même pas ça. Donc, il y a des formations, mais les femmes invitées, ils ont leurs organisations. Elles doivent d'abord descendre sans fin dans les milieux très reculés. C'est là où il y a des problèmes. Si les femmes intellectuelles ont pris conscience, mais je ne crois pas que les femmes de Reagan n'ont pas encore pris cette conscience-là. Ils ne savent même pas que non. La femme doit aussi diriger, elle croit que nous restons au village ou travailler, aller au champ, c'est ça. C'est ça même la vie un point entre eux. Sur le plan politique, la femme ne doit pas aussi rester croire que non, il faut qu'on le donne des ministères comme ça. Elle doit se battre. Vous allez constater que même les femmes députées qui possible, même les femmes elles-mêmes, elles n'en veulent pas. C'est ça aussi le problème. Les femmes doivent se prononcer, ils font vraiment un lobbying, une sensibilisation pour la prise de conscience de la femme. J'ai une question concernant l'invité. On a commencé par les termes, la parité, en passant par l'émancipation, l'égalité des chances. Aujourd'hui, c'est une promesse, tout ça. Alors, jusque-là, lorsqu'on passe des promesses de thème en thème, est-ce qu'ils essaient quand même d'évaluer ce qui s'est passé? Ou on évolue seulement comme ça? Est-ce qu'ils ont déjà le pari de la parité? Est-ce qu'il a été gagné? L'égalité des chances, ça a été gagné? Je dénonce, ça a été gagné, mais il y a des violences jusqu'à ce jour. Le problème, en bref, si je vais terminer, le problème, en bref, la femme doit se prendre en charge, elle ne fait pas de cadeau dans la vie, elle doit se prendre en charge, si elle veut que tout le monde puisse la considérer, elle doit se prendre en charge, parce que la vie...
Voilà, Glasami, merci beaucoup, vous avez pris assez de temps pour expliquer votre position par rapport à la question. Nous retenons que votre inquiétude tourne autour de cette problématique de la parité. Les gens ne doivent pas se payer la parole tout le temps parler de la parité, mais dans la pratique, rien n'est fait. Vous nous avez rappelé, rafraîchi la mémoire sur l'origine même de cette question, parce que là, depuis que nous avons connu cette lutte pour la parité, vraiment, on est parti même de la question sur l'émancipation, en passant par l'égalité. Aujourd'hui, on parle de la parité. Voilà, les gens restent beaucoup plus longtemps dans les discours que dans la pratique. Donc, vous tenez à ce que l'effectivité puisse être vraiment consacrée à cette question. Merci beaucoup, Glazami, d'avoir appelé de Mbujimaï. Nous prenons l'ingénieur Félix qui est à Guémena. Bonjour, Félix.
Ouais, ingénieur Bama Félix de Guémena. Bonjour, Radio Capi, et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Félix, c'est vrai que Glazami
Je voudrais d'abord présenter mon désarroi et puis ma douleur à cette femme du Nord Kivu, cette femme qui est violatée, cette femme qui est violée, cette femme qui est prise en otage par les groupes armés, cette femme qui est victime de violences sexuelles. Alors, je dis mes compassions à ces femmes-là du Nord Kivu. Mm-hmm. Et coup de chapeau au ministre Inagozi qui a consacré cette journée pour la médiation. Mais par rapport à la disposition de la Constitution, à l'article 14, moi je trouve que l'égalité, c'est-à-dire la représentativité de la femme, n'est pas de son état. Parce que la femme se sous-estime. Elle est dans ce que je peux dire, les complexes. Elle s'est sent complexée. Aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple JR. Nous avons un parlement des jeunes issus dans les districts ici d'Ubangi. Nous organisons les élections. Nous avons appelé les femmes, n'est-ce pas, à pouvoir postuler. Je vous assure que si vous regardez, aucune femme n'a présenté sa candidature. C'est ce que nous voulons, c'est que la femme puisse sortir des complexes d'infériorité. C'est qu'elle puisse sortir de cette sous-estimation dont elle-même elle consacre. Mais moi, je trouve que c'est un peu ça, ce que nous pouvons passer. Mais aussi, il faut également la sensibilisation de cette femme. C'est aussi un problème d'information. La femme n'est pas informée sur son rôle, sur les rôles qu'elle doit jouer dans les institutions. Vous serez d'accord avec moi que avec les...
Voilà, merci Félix qui de nous avoir appelé de Guémena, et vous avez ajouté un élément nouveau par rapport à ce que disait tout à l'heure Glazami, hein, qui a parlé de la prise de conscience des femmes, et tout passera, en tout cas selon vous, hein, Félix, par la conscientisation de la femme, par la sensibilisation. Il faut que la femme soit formée. Vous craignez qu'une femme qui n'est pas formée, qui ne sait pas quel rôle doit-elle jouer au niveau du gouvernement, donc ça elle est vouée à l'échec. Merci Félix de Guémena. Ernest, vous êtes à Matadi. Merci de nous rejoindre. Bonjour Ernest.
Bonjour JR.
Voilà, vous avez suivi Glazami et Félix. Vous avez un élément nouveau à ajouter.
Bon, merci beaucoup de m'associer à ce débat. Je crois pour moi, nous sommes dans un processus de réforme. Et la réforme des institutions, la réforme des mentalités, et surtout à ce niveau de mentalité, je crois qu'il est demandé ou exigé aux dirigeants qui sont censés mettre en application ces dispositions constitutionnelles d'avoir une vision, d'avoir une notion dans ce qu'on demande de faire. Je donne un exemple. Lorsqu'on dit dans le gouvernement provincial, il faut avoir 10 ministres provinciaux, et que les 30%, les 10 ministres, ça fait 3 femmes. Or, nous voyons dans certaines provinces, les cas de chez nous au Bas-Congo, le gouvernement passé, il n'y avait qu'une femme. Donc, ça n'a pas atteint les 30%. Et c'est seulement aujourd'hui, nous constatons, avec l'actuel gouvernement en gestation, où nous avons lu les feuilles de route que le gouverneur a proposées, nous voyons qu'il a disponibilisé 3 postes aux femmes. Donc, il atteint 30%. Mais au fait, lorsqu'on dit il faut sensibiliser la femme, il faut la former, c'est l'échec déjà de l'école qui forme cette femme qui est censée de travailler dans le système de l'État. Donc, si la femme a été bien formée aux tâches de la République, dans la gestion, dans toutes les entreprises ou dans la vie sociale. Si cette femme a été bien formée, il y a la sensibilisation n'a plus sa place. Donc, c'est la formation qui doit préparer toutes les personnes, hommes ou femmes, à gérer, à travailler. Et dans ce système de méritocratie, la femme aura l'accès facile à des fonctions de commande. Mais si on considère que la femme doit être sensibilisée comme un élément faible à des faveurs, là, la parité n'aura pas son sens d'être.
Merci beaucoup, Ernest de Matadi. Nous rejoignons Richard qui est à Kinshasa. Richard, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Voilà,
bonne fête à toutes les femmes. Et surtout, dans la conquête de leurs droits, elles doivent être combatives et non être en train de contempler toutes les injustices qu'on déverse sur elles pour crier. Elle doit être combative. Oui. Allô?
Oui, on vous suit, Richard.
Oui. Quand je dis comme ça, c'est quoi? J'ai suivi l'invité qui n'était qu'en train de se plaindre, mais quand nous observons sur le terrain ce qui se passe, nous trouvons que la femme est restée immobile malgré son niveau d'instruction qui est arrivé au niveau même des agrégés de l'université. Et elle ne bouge pas. Ce matin, j'ai fait 2 SMS à 2 femmes professeurs qui ont écrit des ouvrages, mais qui sont restés dans leur tiroir. C'est nous qui prenons ces ouvrages pour en parler. Je parle, par exemple, sur un document relatif aux soins intimes de la femme. Vous savez que quand on prend 10 femmes dans la ville de Kinshasa, 7 utilisent le détol, le savon, ou l'eau de Javel pour les choses intimes. C'est destructeur. Mais la femme qui a écrit ça n'en parle pas. C'est moi, homme, qui prends cet ouvrage, qui parle à la femme. Avec tous les qualificatifs qu'on peut me
donner. Voilà, donc Richard, vous rejoignez Glazami qui parlait tout à l'heure de femmes qui sont en majeure partie complexées.
Mais c'est ça. C'est comme aussi pour leurs soins cosmétiques. C'est moi, homme, qui ai lancé une dynamique femme noire, masque noir, non autre masque, et surtout pas masque imposé. Je lui démontre comment elle s'est détruite par une cosmétique qui lui fait assimiler, ou lui fait, donc qui l'a fait identifier à une blanche, à une américaine, etc. Donc, c'est moi, homme. Elle reste, elle s'est détruite, elle s'empoisonne, elle empoisonne même les futurs enfants qui naissent avec des malformations qui naissent même avec l'hypertension, le rein bousillé par des produits contenant le mercure, etc. Mmh. C'est moi.
Voilà, merci beaucoup Richard. Voilà. 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous revenons à vous, Maître Adine Onokoko. Vous avez suivi Glazami, Félix, Ernest, Docteur Richard et Clément qui est en ligne, qu'on va prendre d'ailleurs tout à l'heure. S'il faut qu'on résume un peu, en tout cas la plupart des auditeurs sont revenus, ont insisté sur le caractère, les complexes de la femme vis-à-vis d'elle-même. Donc elle est complexée vis-à-vis de l'homme. Parfois la femme ne sait pas se prendre, il n'y a pas une prise des consciences auprès de la femme.
Oui, merci beaucoup. Je sens même dans les interventions de nos auditeurs que l'intérêt auquel ils sont en train d'accorder à la question sur la parité, c'est vrai, toute cette controverse dans la compréhension et tout, c'est tout à fait évident. S'il faudrait que je puisse réagir à chose, je dirais ceci, il faudrait que nous puissions faire la part de choses, que nous puissions comprendre comment est-ce qu'a évolué dans notre contexte de la RDC ces débats sur l'émancipation, la
l'égalité,
l'émancipation de la femme, l'égalité de chance et la parité. Nous sommes dans un contexte, évidemment, je prendrai aussi en considération l'aspect de la foi qui font partie d'un des aspects de la culture des individus dans, dans une société. Et je ne pense pas que cet aspect-là pourra constituer un blocage à la mise en œuvre de la parité. Aujourd'hui, il le constitue, ça je reconnais, parce que il y a même des femmes elles-mêmes, même quand elles sont instruites, mais par rapport aux directives de religion, aux directives de
cela permet
à ce qu'elles ne puissent pas avancer. Et là, je rejoins l'auditeur qui dit qu'elles sont complexées. Ça, c'est une chose. Mais il faudrait dire, je dois rappeler que dans mon propos précédemment, j'ai dit que cela fait partie d'un ensemble de ce que l'on appelle des pesanteurs socioculturelles, la coutume, les us, la religion et les pratiques qui se font. C'est vrai. Et pour arriver à cela, il faudrait absolument que l'homme et la femme elles-mêmes reprennent conscience et arrivent à changer des choses, arrivent à changer de comportement. Parce que qui ont institué ces genres de blocages, si je peux appeler ça ainsi, par rapport au développement de la femme? Ce sont les humains eux-mêmes. Donc, ce sont les humains eux-mêmes qui ont constaté que la femme a un rôle à jouer aussi dans la société. Et ce rôle-là ne doit pas se limiter seulement à sa fonction biologique d'être mère au foyer. Non, parce que de toutes les façons, nous resterons toujours femmes, nous aurons toujours à porter de grossesse et non les hommes, à moins que Dieu puisse changer les choses, à moins que l'on puisse créer un troisième être qui pourra rassembler l'homme et la femme. Bref, mais je crois que l'impulsion pour arriver à corriger cela doit venir des dirigeants. Pourquoi? Monsieur qui a appelé de Guémena, si...
Oui, monsieur Félix.
J'ai perdu de vue son nom.
Oui, c'est Félix.
Qui a appelé de Guémena par rapport à l'organisation des élections, et monsieur qui a appelé de Bas-Congo. Vous sentez que la femme a longtemps été reléguée au second plan, au second rôle, hein? Et jusqu'aujourd'hui, même dans les villes urbanisées et même dans l'arrière-pays et dans les territoires, dans les districts et tout, et même dans nos villages, cette mentalité continue, cette pesanteur-là continue à peser sur la femme. Et il faudrait arriver à prendre des mesures coercitives pour arriver à imposer cela. C'est comme ça que j'ai parlé même de la campagne Toutes les filles à l'école, qui a été une décision très positive. Mais quelles ont été les mesures qui ont accompagné cette décision? Il n'y en a pas eu. On aurait bien voulu voir le gouvernement décider de la prise en charge scolaire des femmes, de toutes les filles, au niveau primaire gratuitement, puisque la gratuité même est consacrée, de la scolarité au niveau primaire est consacrée dans la Constitution. Mais aujourd'hui, les parents continuent à payer le frais. Hein? Vous voyez un peu, l'impulsion doit venir des décideurs qui ont longtemps été des hommes et qui doivent permettre à ce que la femme puisse sortir de ce... Des carcans qui les maintiennent encore dans cette situation. Le gouvernement passé de provincial du Bas-Congo n'avait qu'une femme. Aujourd'hui, selon les rumeurs, il y en aura trois. Et qui a décidé? C'est le gouverneur dans la nomination des membres de son gouvernement. C'est un homme. Donc il faudrait que nous puissions arriver à en sortir et à enlever ces déclics dans nos têtes pour que nous puissions nous dire, en ce qui concerne la gestion de la chose publique, en ce qui concerne la gestion de la cité, la gestion de la société entière, la femme ne doit pas demeurer en reste, elle doit participer. Et c'est vrai, sa participation, pour l'instant, nécessitera des impulsions, des politiques, nécessitera des mesures qui devront non seulement la sortir de tout ce qui la retient, mais aussi et surtout, elle devra être... organisé dans un cadre qui permettra à ce que l'on puisse pérenniser ces mesures dans le cadre législatif. Donc, je prends en considération toutes les remarques qui sont faites, mais je dois dire aussi peut-être que nos auditeurs ne suivent pas tout ce que font les femmes au niveau, soit de leur province et au niveau national par rapport à la sensibilisation. Nous travaillons sur la sensibilisation pour que les femmes comprennent, les jeunes filles comprennent qu'aujourd'hui on parle de la parité, mais on ne parlera pas de la parité parce qu'on est simplement femme, mais on parlera de la parité parce que la femme doit être renforcée dans ses capacités de gestion, renforcée dans ses capacités intellectuelles, renforcée dans ses capacités morales, renforcée dans tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse, comme l'homme, arriver à être autonome. Hein?
Voilà, Madame Adine, oui. Nous avons deux autres auditeurs qui sont en ligne, hein, Jacqueline de Kananga et Clément dans la même ville. Nous prenons d'abord Clément qui nous a rejoint le premier. Donc, Clément, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Voilà, vous avez suivi Madame notre invitée, Maître Adine Olokoko, et également les auditeurs qui vous ont précédé dans la majeure. Clément, est-ce que vous nous écoutez?
Oui, je vous écoute.
Voilà. Alors, que faire selon vous pour améliorer le taux qui semble être un peu faible, hein, de la représentation des femmes dans les institutions nationales, et quelle urgence accorder à la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution qui consacre d'ailleurs cette parité?
Oui, vraiment, pour moi, je crois que nous sommes tous pour que la femme puisse avoir une représentation valable dans les institutions. Mais comment cela, Monsieur Gière? D'abord, les femmes elles-mêmes doivent faire l'effort pour accéder à cela. Bien sûr, l'article que vous venez de tester, 14, veut bien que les femmes aient une représentation équitable dans les institutions, soit 30%, tel que le prédécesseur l'a bien dit. Mais qu'est-ce que nous remarquons, monsieur le journaliste? Par exemple, ici au Kassai, les femmes elles-mêmes se minimisent d'abord. Par exemple, à l'égard, ce qu'on a constaté la fois dernière, à l'égard des femmes candidates qui se présentent aux élections, tu verras même d'autres femmes pour les élire, ils disent non. Est-ce que quand nous allons les élire, là, ils vont même se souvenir de là, ça serait le bonheur pour leurs maris et leurs enfants. Et vous voyez déjà qu'avec cette mentalité, déjà qui se trouve dans les mentales des autres femmes, c'est difficile qu'on puisse donner la chance à ces femmes ici qui sont candidates ou qui se représentent pour être placées dans les institutions. Et ici au Kassai aussi, des fois, il y a de mauvais souvenirs pour les chefs d'entreprise ou bien des institutions qui engagent les gens. Des fois, ils demandent d'abord aux femmes de faire les actes sexuels avant que ces femmes ici, avant de prendre les femmes au travail. Vous voyez déjà qu'avec ça, les gens ont une mauvaise souvenir et c'est difficile même qu'ils envoient leurs femmes ou bien leurs filles pour quand même faire l'effort d'accéder aussi dans les institutions. Et l'autre facteur aussi qui favorise la non-représentation des femmes, c'est aussi le secte religieux. Par exemple, ici au Kassai, on a fait toujours que la femme, il y a d'autres sectes qui disent que la femme ne peut pas travailler, il doit être à la maison, c'est l'homme qui va les nourrir, et d'autres disent que la femme doit être soumise à l'homme. Donc on réduit toujours la femme donc à une infériorité qu'elle ne trouve même pas la chance d'accéder à ceci. Vous voyez déjà qu'avec cet enseignement qu'on inculque dans l'univers mental de la femme, il sera toujours difficile qu'il y ait vraiment une représentation équitable telle que nous voulons au niveau des institutions.
Merci beaucoup, Clément, d'avoir appelé de Kananga et la preuve en est que quand nous réalisons même nos émissions, ce sont plutôt des hommes qui réfléchissent plus, hein, dans les grands débats. Mais pourtant, les femmes intellectuelles, on en a quand même dans ce pays. Et les gens qui peuvent réfléchir, faire des analyses aussi très, 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 très objectives par rapport à la question ou des questions que nous traitons dans nos émissions, malheureusement, alors elles sont de moins en moins nombreuses qui participent à ce genre de débats. Et la preuve, aujourd'hui, nous parlons de la parité. Vous voyez, déjà, sur une dizaine d'interventions, il n'y a aucune femme. Mais nous prenons d'ailleurs la première femme qui nous a rejoint, Jacqueline, qui nous a appelé aussi des Kananga. Merci de nous rejoindre, Jacqueline. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez d'éléments à ajouter par rapport à la question du jour. Que faire pour améliorer les taux qui semblent être faibles, les taux de représentation des femmes dans les institutions nationales, et quelle urgence accorder à la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution qui consacre d'ailleurs cette parité?
Oui, je veux rejoindre nécessairement mes prédécesseurs qui ont dit que la femme doit premièrement prendre conscience de sa position dans la société et doit se débattre pour se faire ressentir. Elle doit être responsable et elle doit aussi savoir qu'être femme ne se limite pas à porter des pannes et à défiler, mais et doit aller jusqu'à obtenir une bonne formation pour pouvoir la permettre de se défendre et augmenter les taux de sa représentativité dans la société. Et je pourrais aussi ajouter,
oui, allez-y,
d'un autre côté, les hommes aussi qui ont précédé cette femme dans la gestion des choses publiques doivent avoir un bon cœur de pouvoir recevoir ces femmes qui viennent auprès d'eux comme des nouveaux-nés dans une famille. Puisque dans la plupart des cas que nous constatons, les hommes vraiment se comportent en renard devant les femmes. Nous avons été à l'université et nous est arrivé à passer des stages dans certaines universités et sociétés de la classe. Mais vous trouvez que c'est vraiment difficile que la femme puisse s'adapter. Parce qu'elle a trop à faire. Elle doit recevoir beaucoup d'avance. Elle est partie pour travailler et trop d'avance. S'il arrive même que la femme dénonce, voilà ce que je vois au chef, donc
elle est
disposée par les hommes avec qui elle travaille.
Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir apporté cette inquiétude dans cette émission. Nous prenons également Rachel. Voilà, les femmes se réveillent un tout petit peu. Rachel est à Isiro, dans la province orientale. Bonjour, Rachel. Voilà, vous avez suivi votre prédécesseur et il y en a des auditeurs qui vous ont précédé dans, disons, autour de cette réflexion. Vous avez la parole, Rachel.
Oui. Moi, premièrement, je commencerai d'abord par dire, je ne sais pas si réellement les gens comprennent la définition de nos parités. Si vous permettez, j'ai fait définir nos parités.
Oui, allez-y.
Oui, en vrai, la définition de nos parités, on a bien dit bonjour, l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Et maintenant, nos législateurs ont défini 3% de pourcentage. On a donné 3% pour les femmes et 7% pour les hommes. Et maintenant, là, il n'y a pas l'égalité parce qu'on a dit une égalité parfaite. Donc, un équilibre, c'est vraiment impossible. Là, vraiment, je dirais à nos gouvernements d'essayer de vérifier ça. Parce que voilà des écoles. Même quand on est à l'école, on n'a pas le droit de parler. Si on parle avec nos amis garçons qui disent que non, vous avez bien suivi la parité définie comme l'égalité, les femmes ont 30% et nous les hommes c'est 30%, c'est-à-dire on est toujours supérieur à vous. Là on a dit qu'on n'est pas, on ne refuse pas, mais dans des milliers comme des milliers de travail. Et la raison pour laquelle nous aujourd'hui, dans notre école là où j'ai étudié, nous avons pu décider, comme la ministre a dit, il n'y aura pas de défilé. Nous avons organisé une conférence, nous avons invité des écoles différentes pour venir participer avec nous. Et là, c'est maintenant qu'on va essayer de débattre sur ça aussi, c'est la parité, c'est ça.
Donc vous allez faire le débat aujourd'hui, c'est demain ou samedi?
Oui, aujourd'hui, c'est tout de suite à 14h30.
Voilà, un grand débat entre femmes et les filles et les garçons hein, autour de la parité.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Rachel, et bonne fête, disons, à toutes les femmes des Siro qui sont en train de suivre cette émission. Parole aux auditeurs 081-890-6315 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Avant de revenir à vous, Maître Adine, nous prenons d'abord Jean qui est à Kinshasa. Et Jean, vous êtes avec nous. Merci d'ailleurs de nous rejoindre. Vous avez suivi.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio.
Voilà, merci beaucoup, Jean. Voilà, vous avez la parole, Jean.
Ok, merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Je crois que le problème de la parité dont nous parlons aujourd'hui.
Oui, s'il vous plaît, Jean. Si, tout autour de vous, il y a plein de bruit, tout autour de vous.
Les responsables, elles-mêmes.
Ben voilà, on peut laisser comme ça, peut-être il est dans des marchés ou je ne sais pas. Voilà.
Pas à penser à cela. Alors, moi je dis que les femmes doivent d'abord prendre leurs responsabilités en main à partant de leur initiatrice qui est la ministre des Affaires familiales et enfants, qui a pris une mesure louable pour cette année, mais si à obtenir n'arrive pas, c'est ce que nous constatons par exemple pour cette journée, à expliquer aux femmes ce à quoi elles doivent, ce qui les attend. Alors, ça fait déjà un problème. Les femmes même de cette année ici, je ne sais pas, les femmes elles-mêmes, si elles connaissent même, rien. Les femmes sont marginalisées partant de leur propre volonté aussi. Même si nous disons dans les institutions, ils doivent être représentés. Mais quand il y a un poste à pourvoir quelque part, il y a toujours les privilégiés, on prend d'abord la femme de tel, de quel autre, au détriment de votre femme. Alors comment une femme peut-être qui a étudié, qui a le souci de travailler, alors quand elle arrive quelque part, on lui impose avant d'avoir un job, vous devez d'abord libérer ceci, vous devez aimer les chefs, vous devez faire ceci. C'est encore un blocage au niveau des femmes. Alors nous nous disons que le problème de la parité, pour moi, il faut encore attendre une bonne dizaine, sinon une quinzaine, une vingtaine d'années pour que cela soit vraiment effectif. Il ne faut pas que les Congolais aient toujours l'habitude de copier l'histoire parce que ailleurs ça se fait comme ça, nous aussi nous devons faire comme ça. Non, 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 nous devons prendre notre savoir, ce à quoi nous sommes appelés à faire.
Donc si je comprends
réellement faire.
Oui, si je comprends bien, Jean.
Ça sera bien.
Si je comprends bien, Jean, vous êtes un peu pessimiste, hein. Vous dites l'effectivité de la mise en œuvre de l'article 14, c'est pas demain, il faut attendre ça vraiment dans les jours, dans les années à venir, mais pas dans moins de 10 ans, selon vos propos. Merci Jean. Confiance, vous êtes à Bongo, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour.
Je dis d'abord bonjour à tous les occupants de la radio de la paix.
Merci.
Et spécialement aux dames. Oui, en fait, je voulais faire une petite remarque parce que je m'attendais vraiment à une surprise aujourd'hui. Je me disais que comme c'est la journée de la femme, c'est peut-être une femme qui pourrait...
Oui, qui est de femme, voilà.
En fait,
Kabongo, on y avait pensé, mais vous nous excuserez, hein, parce que bon, il y avait encore quelque chose qu'on pouvait, la dernière main qu'on devait mettre sur ça. Bon, ce n'est qu'une partie remise. La prochaine fois, on ne manquera pas d'en tenir compte, et puis vous aurez Titi ou peut-être une autre femme, disons, au micro pour présenter la journée internationale de la femme.
Je pense que la parité devait commencer par être expliquée là-bas. Ok, pour commencer, je commencerai d'abord par dire grandement merci, vous me le permettrez.
Oui, allez-y.
À toutes ces fillettes, toutes ces filles, toutes ces femmes, nos soeurs, nos épouses, nos mères, qui au fil du temps deviennent nos génétrices et qui, au leur sang, nous donnent naissance et nous en entretiennent nos vies.
Voilà, confiance.
Toujours,
oui, confiance, s'il vous plaît, confiance. Vous êtes à un endroit où il y a des petits problèmes, hein, avec la communication. On vous saisit à peine, jusque-là, on ne comprend rien. Si vous pouvez être plus ou moins, si vous pouvez encore changer un peu de position.
Oui, je disais qu'elle trouve en ce jour notre reconnaissance, hein, celle qui prenne le soin de notre vie de le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Ok, étant toujours marginalisée et maltraitée dans la plupart des cas, la femme ne reçoit toujours pas une rémunération considérable en rapport avec le sacrifice qu'elle consent pour l'éducation dès le bas âge jusqu'à notre maturité, de tout être humain bien sûr. Et moi je pense, pour répondre à votre question, il serait mieux que la femme soit récompensée en rapport avec le travail qu'il fait. Pour moi, d'ailleurs, doublement, peut-être. Ce serait une partie de la réponse au problème. Donc, parmi les choses qu'il faudra faire pour l'amélioration de la représentativité, c'est d'abord reconnaître sa majorité du point de vue de la population. Parce que, d'une manière générale, elle représente plus de 65% de la population. Ce qui revient à dire que les femmes elles-mêmes, même si elles votaient, elles peuvent donner les dirigeants de ce pays, elles seules. Donc j'aurais souhaité qu'elles prennent conscience de ce pouvoir qu'elles ont, qu'elles soient dans les institutions le reflet de leur nombre au sein de la population, donc environ 65%. La loi n'est pas mauvaise, les 30%. Décréter d'une manière constitutionnelle, j'aurais souhaité qu'on décrète d'une manière constitutionnelle une alternance obligatoire au pouvoir pour assumer les plus hautes fonctions. Car je pense qu'avec les femmes à la tête de ce pays, on ne connaîtrait pas toutes ces injustices avec tout ce qu'on a eu comme injustice avec les hommes. 53 ans après l'indépendance, jamais une femme n'a été à la tête de ce pays. Pourquoi ne pas les essayer? Moi, je pense qu'il faudrait les essayer et faire prendre aux femmes conscience de leur responsabilité dans ce pays. Parce qu'on dit toujours derrière un grand homme,
il y a toujours une femme.
Il y a toujours toujours une grande dame. Donc, tout ce qui arrive dans ce pays, elles sont responsables. Parce que ce sont elles, les conseillères de ces hommes qui dirigent ce pays. Donc, en réalité, elles sont en train de diriger le pays en coulisses. Donc, faire prendre aux femmes la conscience de leurs responsabilités, appliquer totalement la Constitution sur tout ce qui concerne la parité dans tout le secteur de la vie nationale. Il ne faudrait pas seulement que ce soit dans la vie politique et ainsi de suite. Exigez pour moi le nombre exact des femmes pour le même nombre d'hommes. Même dans la présentation des candidatures, ce serait vraiment une solution. Donc, il y a un problème. La loi est là. Dans la Constitution, c'est bien clair, mais en pratique, ce n'est pas encore réalisé. Je ne voudrais pas qu'on revienne toujours à la femme. On a déjà dit qu'elles ce sont elles qui restent molles, qui ne s'activent pas, mais les mesures qui favorisent cette parité doivent aussi être vues du côté des hommes, parce que ce sont des fois des hommes qui décident. Moi, je pense qu'une alternance obligatoire serait une possibilité. On dit, par exemple, ce mandat est pour les femmes, et le mandat prochain, qu'il pleuve, qu'il neige, et c'est
Voilà, merci beaucoup, Confiance Kabongo de Kinshasa. Nous restons toujours à Kinshasa, hein, mais cette fois-là, on va accorder la parole à Marie Chantal, qui est à Kinshasa. Je crois que ça sera notre dernière auditeur ou auditrice qui va réfléchir ensemble avec nous. Marie Chantal, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Voilà, merci de nous rejoindre. Vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre point de vue?
En fait, j'aimerais commencer par louer l'initiative de la ministre du genre qui a eu à changer cette journée. Ben, nous savons que cette journée elle est toujours, je dirais, caractérisée par certaines cérémonies inutiles que j'appelle en ce sens des tralala à gauche, ben, des défilés, port de paille, et nous ramener à voir la situation de la femme, à réfléchir sur ce qu'elle peut faire pour justement ramener la paix dans notre pays. Je dirais que la femme est un peu confrontée à plusieurs problèmes dans notre société, notamment le harcèlement. Prenons le cas dans les entreprises, ou même au niveau de l'embauche, la femme, de fois, est violentée, je dirais, en ce sens, elle subit de violence, en ce sens que pour, par exemple, accéder à un poste quelconque dans la société, dans une entreprise, elle doit se laisser faire ou donner son corps pour, on ne tient même pas compte de son niveau, de ses compétences, on la rabaisse à ce niveau-là. Et je dirais quelque part que, aussi, c'est face aussi à la femme elle-même, d'une grande partie de cette population, on se dit, si elle-même, la femme, prenait conscience de son rôle, si elle était sûre d'elle, elle n'allait pas se laisser faire, elle n'allait pas se laisser conduire dans certaines situations qui peuvent la mettre devant, des obstacles qui ne vont pas l'aider à évoluer dans la société. Mm-hmm. Cette femme-là, je dis la femme congolaise, et moi également, je fais partie de ces femmes, doit aussi se dire que le pouvoir, quand bien même on cherche à être représenté, ça ne se donne pas comme un cadeau, elle doit se battre, elle doit montrer ses compétences. L'homme n'est pas là pour nous donner le pouvoir sur un plateau d'or. On doit prouver de quoi on est capable. On doit essayer aussi de se former. On ne doit pas attendre que ça vienne de l'homme. Nous-mêmes, nous devons avoir, créer des situations où être à la base de certaines inspirations ou des initiatives qui peuvent amener la femme au développement, au changement de mentalité. Nous savons que la femme est dotée, je l'ai dit, à plusieurs réalités culturelles également. Même dans nos familles, nous voyons que des fois on néglige la femme au détriment de l'homme. Ça doit commencer au niveau de la base pour que ça puisse aller au sommet. Et ceci, je demanderais à ce que chaque femme puisse prendre conscience de son rôle bien nous étudions, nous devons savoir que nous sommes capables de faire ce que les hommes font, quand bien même physiquement nous sommes différents, nous sommes différents des hommes, et la femme doit être vraiment prendre conscience de son rôle, de se propulser, d'être éveillée, d'être un peu curieuse, de s'adonner un peu à elle-même, à tout. Sa connaissance générale. On ne doit pas se dire non, ça c'est réservé aux hommes. Moi, je ne peux pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Marie Chantal, d'avoir accepté de participer d'ailleurs dans ces débats. Nous allons conclure avec notre invité, Maître Adine Onokoko, qui est en ligne. Maître Adine, bonjour. Nous n'avons que deux minutes pour conclure cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Oui. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire?
Ce que je peux dire est que M. Constance, lui, il a déjà répété en d'autres mots ce que j'étais en train de dire. Mais pour revenir à la troisième question sur l'urgence à la mise en œuvre de la parité, d'abord, l'urgence est que le Congo est membre des organisations internationales comme les Nations Unies, dont la charte en son article 25, si ma mémoire est bonne, dit que toutes les décisions que prennent les Nations Unies sont constituent des lois, constituent des dispositions à respecter par les États parties, par les États membres. Et la résolution 1325 est une des résolutions qui fonde même la mise en œuvre de la parité dans la constitution de notre pays, parce que nous faisons partie des Nations Unies. Et aussi, il faudrait que nous ne puissions pas continuellement, du point de vue international, nous engager sans pour autant faire respecter nos engagements. Il faudrait que le Congo puisse quitter l'étape des discours, puisse quitter l'étape des textes inappliqués. Il faudrait absolument que les mesures soient prises pour rendre effective cette parité. La loi est là, mais il faudrait que cette loi puisse être accompagnée des mesures décisionnelles, des volontés politiques pour que la femme puisse se retrouver. Je remercie tous les auditeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait une lecture peut-être que nous n'avons pas, ou que peut-être une lecture à laquelle nous n'arrivons pas toujours à insister dans le travail que nous sommes en train de faire. La femme travaille même quand elle est ménagère, qui a déjà capitalisé le travail que fait la femme au niveau des ménages et qui l'a déjà rémunéré, personne. Donc je crois qu'il faudrait qu'on ne minimise pas et qu'on ne réduise pas seulement la femme aux tâches ménagères, qui sont aussi des tâches très très dures et très lourdes pour elle. Et il faudrait absolument que des lois comme ça puissent prendre en compte ce genre de travail. Donc, je remercie nos auditeurs. Nous allons continuer notre travail en tant que...
Voilà, merci Maître Adine, merci également à vous tous qui avez participé à ce débat. La Commission épiscopale nationale CELCO est très favorable au dialogue international, initié par les chefs d'État comme voie idéale de sortie de crise, et fait quelques propositions sur les matières à traiter, entre autres le respect de l'ordre constitutionnel. Parole aux auditeurs en parle ce lundi 11 mars. La question au cœur du débat: que vous inspire la proposition des évêques du Congo contenue dans leur dernière déclaration? Envoyez vos réactions à l'adresse pa@radiocapi.net, et vous pouvez aussi vous inscrire déjà sur notre page Facebook. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur Okapi et à très bientôt.